Chapitre 8. Dans la mansarde. Sarah n'oublia jamais la première nuit qu'elle passa dans sa mansarde. Ce fut une nuit d'angoisse et de souffrance morale au-dessus de son âge, et elle n'en fit jamais confidence à ceux qui l'entouraient, car aucun n'eût compris. Il est heureux pour elle qu'elle eût, à certains moments, son attention détournée par l'étrangeté de son nouveau logement, alors qu'elle restait étendue dans l'obscurité, sans pouvoir dormir. Il est heureux peut-être que son corps la rappelât aux choses matérielles. S'il n'en avait pas été ainsi, l'angoisse qui étreignait son jeune cœur eût peut-être dépassé les forces d'une enfant. En réalité, pendant cette interminable nuit, c'est à peine si elle se rendit compte qu'elle avait un corps, ou se souvint d'autre chose que de son chagrin. « Papa est mort », se répétait-elle sans cesse. « Papa est mort ». Ce ne fut que longtemps après qu'elle eut conscience de ce qu'elle avait ressenti durant cette affreuse nuit. Ce lit, si dur, qui l'obligeait à se retourner sans cesse pour tâcher de reposer, l'obscurité, plus compacte que jamais, le mugissement du vent sur le toit, les cheminées grinçant et comme faisant entendre de lugubres lamentations, mais il y eut pire encore. Des grattements, des glissades, de petits cris aigus dans les murs et derrière les plinthes. Elle savait quelle en était la cause, parce que Becky lui en avait parlé. C'était des batailles de rats et de souris. Une ou deux fois même, elle perçut, tout proche, le bruit de petites pattes sur le plancher, et se souvint que, dans son effroi, elle s'était assise sur son lit toute tremblante et s'était recouchée ensuite en se couvrant la tête de son drap. Toutes ses habitudes furent bouleversées, non pas graduellement, mais d'un seul coup. « Il faut qu'elle se plie dès aujourd'hui à son nouveau genre de vie », recommanda Miss Minchin à Miss Amelia, et lui montrait sans tarder ce qu'on attend d'elle. Dès le lendemain matin, Mariette quitta la pension. Sarah, passant devant la porte ouverte de son petit salon, vit que tout y avait été changé. On avait enlevé ses petits bibelots et on avait placé un lit, dans un coin, pour transformer la pièce en chambre à coucher, destinée à une nouvelle élève. Quand elle descendit, pour le petit déjeuner, elle constata que sa place à côté de Miss Minchin était occupée par Lavinia, et Miss Minchin lui adressa la parole froidement. « Vous commencerez à remplir vos nouveaux devoirs, Sarah, en vous asseyant à la petite table, avec les plus jeunes. Vous veillerez à ce qu'elles se conduisent bien, à ce qu'elles se tiennent tranquilles et ne gaspillent pas leur nourriture. Vous auriez dû descendre plus tôt, Lottie a déjà renversé son thé. » Ce fut ainsi que cela commença. Et de jour en jour, on lui imposa plus de corvées. Elle donna des leçons de français aux petites et leur faisait réciter leurs autres leçons. Et c'était là le moins dur de sa tâche. On découvrit qu'on pouvait se servir d'elle en mille circonstances. On l'envoyait faire des commissions à tout moment et par tous les temps. On lui faisait faire des besognes oubliées ou négligées par les autres. La cuisinière et la femme de chambre suivirent l'exemple de Miss Minchin et se réjouirent de pouvoir donner des ordres à cette petite au sujet de laquelle on avait fait tant d'embarras et pendant si longtemps. Ce n'étaient pas des domestiques de grande maison. Elles n'avaient ni bonne manière ni bon caractère et trouvaient très commode d'avoir sous la main quelqu'un sur qui faire retomber tous les torts. Pendant les premiers mois, Sarah espéra que sa bonne volonté et son silence, quand on la blâmait, pourrait adoucir ceux qui la menaient si durement. Dans la fierté de son petit cœur, elle tenait à leur prouver qu'elle pouvait gagner sa vie et qu'elle ne voulait pas de charité. Mais elle finit par comprendre à la longue que personne ne s'adoucissait, le moins du monde, et que, plus elle était disposée à rendre service, plus les servantes la tyrannisaient et devenaient exigeantes, plus la cuisinière la grondait et la bousculait. Plus âgée, Miss Minchin lui aurait fait faire la classe aux plus grandes et aurait économisé les appointements d'une sous-maîtresse. Mais aussi longtemps qu'elle n'était qu'une enfant, on jugeait préférable de s'en servir comme d'un petit commissionnaire et d'une bonne à tout faire. Sarah savait s'acquitter des commissions les plus difficiles et des messages les plus compliqués. Elle allait payer les notes, ce qui ne l'empêchait pas d'épousseter une chambre et d'y mettre tout en ordre. Ses leçons, à elle, ne furent bientôt plus qu'un souvenir. On ne lui enseignait plus rien, et c'est à regret qu'on lui permettait, après une longue et fatigante journée passée à courir de tous côtés, aux ordres de tout le monde, d'aller, en compagnie de quelques vieux livres, travailler, seul, le soir, dans la salle d'études déserte. Si je ne relis pas les choses que j'ai apprises, peut-être les oublierai-je, se dit-elle. Je suis presque une souillon, et si je suis une souillon qui ne sait rien, je serai comme la pauvre béquille. Je me demande s'il me serait possible d'oublier complètement les règles de la grammaire et les dates de l'histoire. Le plus bizarre dans sa nouvelle existence, c'était son changement de situation vis-à-vis des élèves. Au lieu d'être parmi elles, une sorte de petit personnage quasi royal, elle semblait ne plus appartenir à l'école. Ses occupations, si nombreuses, ne la mettaient presque jamais en contact avec ses anciennes compagnes, et il ne lui échappait pas que Miss Minchin désirait qu'elle vive à l'écart. « Je ne veux pas qu'elle parle aux élèves, ni qu'elle se fasse des amis parmi elles, » disait Miss Minchin. « Les jeunes filles aiment à se plaindre, et si Sarah commence à raconter des histoires à dormir debout sur elle-même, on la prendra pour une héroïne maltraitée, et les parents se figureront des choses qui n'existent pas. Il est préférable qu'elle mène une existence séparée et convenante à sa position. Je la garde sous mon toit, et c'est plus que ce qu'elle a le droit d'attendre de moi. » Sarah n'avait pas d'exigence. Et elle était bien trop fière pour essayer de continuer à fréquenter des enfants qui, bien évidemment, étaient gênés et embarrassés vis-à-vis d'elle. Les élèves de Miss Minchin n'étaient, à vrai dire, qu'une collection de jeunes personnes très prosaïques et très banales. Elles étaient habituées à la richesse et au confort, et lorsque les robes de Sarah parurent de plus en plus râpées et écourtées, et qu'il fut bien établi qu'elle sortait chaussée de souliers troués et avec un panier au bras pour porter les provisions, elles eurent l'impression, en lui parlant, qu'elle s'adressait à une domestique. « Dire que c'était la jeune fille aux mines de diamants, » remarqua Lavinia. « Elle est plus bizarre que jamais. Je ne l'ai jamais beaucoup aimée, mais je ne peux pas supporter cette façon qu'elle a de vous regarder, sans rien dire, comme si elle voulait scruter vos pensées. » « Mais oui, c'est bien pour cela que je regarde les gens, » répondit Sarah sans hésiter, quand on lui rapporta ce propos. « J'aime à les connaître et à étudier leur caractère. » Il est certain que Sarah s'était évité plusieurs fois des ennuis en ayant l'œil sur Lavinia, qui n'était que trop disposée à nuire et qui eût été assez contente d'exercer sa malice contre son ancienne rivale. Sarah, elle, ne songeait jamais à nuire à personne, ni à se mêler des affaires des autres. Elle travaillait comme une esclave, parcourant les rues boueuses, portant des paniers et des baquets. Elle luttait contre la paresse des petites. Pendant la leçon de français, et quand sa robe ne fut plus qu'une guenille et qu'elle eut tout à fait l'air d'une enfant abandonnée, on lui dit de prendre ses repas à la cuisine. On la traita en paria, son cœur souffrit et se raidit. Mais elle supporta tout en silence. « Les soldats ne se plaignent pas, » se disait-elle, en serrant ses petites dents. « Je ne me plaindrai pas. » Mais, à de certaines heures, un tel isolement aurait presque brisé son cœur, si elle n'avait pu compter sur la sympathie de trois personnes. La première, on le sait déjà, fut Becky, tout simplement Becky. Pendant cette première nuit passée dans la mansarde, Sarah avait ressenti un peu de soulagement à la pensée que, de l'autre côté de ce mur, où les rats grattaient et couraient, il y avait une autre créature humaine. Et pendant les nuits qui suivirent, ce sentiment de soulagement s'accentua. Elles ne pouvaient se parler pendant la journée, chacune avait son travail, et si elles avaient essayé d'échanger quelques mots, on les eût traitées de flâneuses et de paresseuses. « Ne faites pas attention, miss, » murmura Becky. « Dans la matinée du lendemain, si je vous parle peu poliment. Nous serions grondés, si je le faisais. Je n'oublie pas. S'il vous plaît, ni merci, ni excusez-moi. Mais je n'ose pas prendre le temps de le dire. » Chaque matin, cependant, avant le point du jour, elle se glissait dans la mansarde de Sarah et lui offrait ses services, avant de descendre allumer le feu de la cuisine. Et, le soir, quand la nuit tombait, Sarah entendait toujours frapper timidement à sa porte, ce qui signifiait que sa petite servante était de nouveau prête à l'aider. Pendant les premières semaines qui suivirent la mort de son père, Sarah se sentit trop déprimée pour parler, et il se passa donc un peu de temps avant que leurs rapports devinssent plus fréquents. Le cœur de Becky l'incitait à ne pas troubler Sarah dans sa douleur trop récente. La seconde du trio de consolatrices fut Ermengarde, mais il se passa des faits singuliers avant qu'Ermengarde remplisse son rôle. Quand Sarah reprit conscience de ce qui se passait autour d'elle, Elle s'aperçut qu'elle avait oublié l'existence d'Ermengarde. Elles avaient toujours été bonnes amies, cependant, mais Sarah s'était toujours sentie de beaucoup la plus âgée. On ne pouvait nier qu'Ermengarde était aussi bornée d'intelligence qu'elle était affectueuse. Elle s'était attachée à Sarah, fortement et par besoin, se faisant aider par elle pour apprendre ses leçons, et écoutant chaque mot de Sarah et réclamant sans cesse des histoires. Mais elle n'avait rien d'intéressant à raconter elle-même, et détestait tous les livres. C'était en somme une personne facile à oublier au milieu des angoisses d'un grand chagrin, et Sarah l'oublia en effet. Et cela d'autant mieux qu'Ermengarde avait été soudainement rappelée chez elle et qu'elle fut absente plusieurs semaines. À son retour, elle ne revit pas Sarah tout de suite, mais la rencontra un peu plus tard dans un corridor. Sarah avait les bras encombrés de vêtements à raccommoder qu'elle portait à la lingerie. Elle avait d'ailleurs appris à les raccommoder elle-même. Toute pâle et physiquement très changée, elle était vêtue de cette drôle de robe trop courte qui laissait voir ses jambes maigres. Ermengarde était trop lente d'esprit pour savoir comment agir en une telle circonstance, et ne sut que dire. Elle était au courant de ce qui s'était passé, mais n'avait jamais imaginé que Sarah pût avoir l'air si misérable, et presque l'apparence d'une servante. Elle en fut très malheureuse, et ne sut que rire bêtement. « Oh, Sarah, est-ce bien vous ? » s'écria-t-elle sans rime ni raison. « Oui, » répondit Sarah. Sarah tenait la pile de vêtements entre ses bras et appuyait son menton dessus, pour les maintenir en équilibre. Elle regarda Ermengarde en face avec, dans les yeux, une certaine expression qui fit perdre la tête à la pauvre Ermengarde. Il sembla à celle-ci que Sarah s'était transformée en une petite fille toute différente, qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Peut-être était-ce parce qu'elle était devenue pauvre soudainement, qu'elle devait faire des raccommodages et travailler comme béquille. « Oh » balbutia-t-elle. « Comment allez-vous ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit Sarah. « Et vous, comment allez-vous ? » ?»« Je vais très bien, » dit Ermengarde, paralysée par la timidité. Puis, avec agitation, elle essayait de dire quelque chose qui aurait l'air moins banal. « Êtes-vous très malheureuse ? » bredouilla-t-elle. Et alors Sarah fut injuste. Se sentant le cœur vraiment trop gros, elle estima qu'il était préférable de rompre tout commerce avec une personne bête à ce point. « Qu'est-ce que vous pensez vous-même » dit-elle. « Croyez-vous que je sois heureuse ?» Et poursuivant sa route, elle passa à côté d'Ermengarde sans ajouter un mot. Plus tard, elle se rendit compte que si son chagrin ne l'avait pas aveuglée, elle se serait souvenue que la pauvre Ermengarde n'était pas à blâmer pour ses manières gauches et lentes qui lui étaient habituelles, car plus elle était émue, plus elle se montrait stupide. Mais pour sa manière d'être, Ermengarde avait éveillé la susceptibilité de Sarah. « Elle est pareille aux autres », s'était-elle dit. Et il en résulta que, pendant plusieurs semaines, il s'éleva entre elles une barrière. Quand elles se rencontraient, Sarah détournait son regard et Ermengarde se sentait trop embarrassée pour lui parler. Quelquefois, elle se faisait un signe de la tête, mais la plupart du temps, elle ne se saluait même pas. « Si elle préfère ne pas me parler, » pensait Sarah, « je ne ferai pas les premiers pas. D'ailleurs, Miss Minchin me rend cette attitude assez facile. » On remarqua à cette époque qu'Ermengarde semblait plus stupide encore et qu'elle n'avait jamais eu l'air aussi nonchalante et malheureuse. Elle s'asseyait souvent dans l'embrasure d'une fenêtre et regardait fixement le square sans prononcer une parole. Un jour, Jessie, passant près d'elle, la dévisagea avec curiosité. « Pourquoi pleurez-vous, Ermengarde ? » demanda-t-elle. « Je ne pleure pas, » répondit Ermengarde, d'une voix assourdie et tremblante. « Mais si, vous pleurez, une grosse larme vient de couler le long de votre nez, et en voici une autre. « Bien, si je pleure, c'est que je suis malheureuse, et cela ne regarde personne. » Et elle tourna le dos à Jessie, sortit son mouchoir et s'y cacha la figure. Ce soir-là, quand Sarah monta à sa mansarde, il était plus tard que d'habitude. On l'avait fait travailler jusqu'après l'heure du coucher des élèves, et elle était allée ensuite apprendre des leçons dans la salle d'études déserte. Quand elle arriva en haut de l'escalier, elle fut étonnée de voir une lumière briller sous sa porte. « Il y a quelqu'un dans ma chambre, » pensa-t-elle rapidement, « et qui a allumé une bougie. » Quelqu'un, en effet, avait allumé une bougie qui ne brûlait pas dans un bougeoir de cuisine, mais dans un des flambeaux des chambres d'élèves. Ce quelqu'un était assis sur le pauvre tabouret et était en toilette de nuit, enveloppé d'un châle rouge. C'était Ermengarde. Sarah fut si surprise qu'elle en fut presque effrayée. « Ermengarde ! » s'écria-t-elle. « Vous allez vous attirer des ennuis !» Ermengarde se précipita à bas du tabouret et glissa à travers la chambre dans ses pantoufles trop grandes. Ses yeux et son nez étaient rouges à force d'avoir pleuré. « Oui, je le sais bien, dit-elle, si on me surprend. Mais je m'en moque. Oh, Sarah, je vous en prie, dites-moi ce qui ne va pas. Pourquoi ne m'aimez-vous plus ?» Quelque chose dans l'intonation de cette voix toucha et émut Sarah profondément. C'était si affectueux et si simple, et cela ressemblait tellement à l'Ermengarde qui avait dit à Sarah « Soyons amis !» et pas du tout à l'Ermengarde indifférente qu'elle avait paru être devenue durant ces derniers temps. « Mais si, je vous aime bien, dit Sarah. Je croyais... Vous voyez, tout est différent maintenant. Je croyais que vous étiez différente aussi. » Ermengarde ouvrit tout grand ses yeux mouillés de larmes. « Comment ? Mais c'est vous qui n'étiez plus la même. Vous ne m'adressiez plus la parole. Je ne savais que faire. C'est vous qui n'étiez plus la même quand je suis revenue. » Sarah réfléchit un moment et s'aperçut qu'elle s'était trompée. « Oui, j'ai changé, expliqua-t-elle, mais pas comme vous l'entendez. Miss Minchin ne veut pas que je parle aux élèves, et la plupart d'entre elles ne me parlent plus. J'ai pensé que, peut-être, vous étiez d'une ombre, et je me suis tenue à l'écart. « Oh, Sarah !» gémit Ermengarde avec consternation. Après un moment d'hésitation, elles se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre. Il faut avouer que la petite tête brune de Sarah resta quelques instants sur l'épaule couverte d'un châle rouge. Quand elle avait cru à l'abandon d'Ermengarde, elle s'était sentie terriblement seule. Ensuite, elles s'assirent par terre, Sarah entourant ses genoux de ses bras et Ermengarde enroulée dans son châle. Ermengarde contemplait avec adoration l'étrange petite figure aux grands yeux. « Je n'en pouvais plus, avoua-t-elle. Vous pourriez vivre sans moi, Sarah, mais moi je ne pourrais pas me passer de vous. J'étais presque morte. Et ce soir, tandis que je pleurais dans mon lit, j'ai tout à coup pris la résolution de monter sans bruit jusqu'ici et de vous supplier d'être de nouveau mon amie. « Vous êtes meilleure que moi, dit Sarah. J'étais trop fière pour essayer de renouer notre amitié. Vous le voyez, les épreuves sont venues, et elles ont prouvé que je n'étais pas une gentille enfant. Je le craignais. Peut-être, ajouta-t-elle en plissant le front comme un vieux philosophe, est-ce justement pour cela qu'elles m'ont été envoyées ?»« Je ne vois pas ce qu'il y a de salutaire dans les épreuves, répondit Ermengarde d'un ton résolu. Ni moi non plus, à vrai dire, avoua Sarah franchement. Mais il y a peut-être du bon en toute chose, même si nous ne le voyons pas. Et qui sait, ajouta-t-elle, d'un ton peu convaincu. Il y a peut-être même du bon à Miss Minchin. » Ermengarde regarda autour d'elle avec curiosité et frayeur. « Sarah, dit-elle, est-ce que vous croyez vraiment pouvoir vivre ici ?»« Je peux le faire, répondit Sarah, en suivant son regard, si je m'imagine que tout est différent et que cet endroit n'existe que dans un conte. » Sarah parlait lentement. Son imagination recommençait à travailler, ce qu'elle n'avait pas fait depuis le coup qui l'avait comme étourdie. Il y a des êtres qui ont vécu dans des endroits bien pires. Pensez au comte de Monte-Cristo, dans le donjon du château d'If, et pensez aux prisonniers de la Bastille. « La Bastille !» murmura Ermengarde, regardant Sarah et commençant à retomber sous le charme comme autrefois. Elle se souvenait d'histoires de la Révolution que Sarah avait pu fixer dans sa mémoire par sa manière dramatique de conter, et personne d'autre n'aurait obtenu ce résultat. Les yeux de Sarah s'illuminèrent comme autrefois. « Oui, dit-elle vivement, voilà une bonne chose à imaginer. Je suis prisonnière à la Bastille, j'y suis depuis des années et des années, et tout le monde m'a oublié, Miss Minchin et ma geôlière. Et Becky, continua-t-elle avec enthousiasme, Becky, c'est mon voisin de cellule. » Elle se tourna vers Ermengarde. C'était de nouveau la Sarah d'autrefois. « Oui, je vais imaginer cela, et ce me sera une grande consolation. » Ermengarde fut à la fois impressionnée et ravie. « Et vous me le raconterez, n'est-ce pas ? Puis-je monter ici sur la pointe des pieds le soir, quand il n'y aura pas de danger, afin que vous me fassiez le récit de ce que vous aurez inventé pendant la journée, et nous redeviendrons amis de cœur, plus que jamais. » Oui, dit Sarah en inclinant la tête, l'adversité éprouve les amis. Mes malheurs vous ont mis à l'épreuve et ont montré combien vous êtes gentille.